Mondialisation, inflation, délocalisation, spéculation, individualisme, profit. Marre d'une économie qui mène à la crise. Économie sociale et solidaire, démocratie, coopération, engagement, partage, proximité, pérennité.
Le mois de l'économie sociale et solidaire, c'est en novembre. Faites votre programme sur www.lemois-ess.org. Social et solidaire, l'économie qui sait où elle va.
Informer sur une économie qui a du sens et qui sait où elle va, l'économie sociale et solidaire, c'est l'objectif de ce mois de novembre qui lui est consacré. L'environnement et le fonctionnement des entreprises changent. Quels sont les enjeux de ces mutations ? Président, administrateur, responsable des ressources humaines étaient amenés à débattre sur ce sujet le 5 novembre dernier au Palais des Congrès et de la Culture du Mans lors du 5e colloque des employeurs de l'économie sociale. Dans cette émission, nous aborderons l'appui aux dirigeants de l'économie sociale avec Jacques Stern, président de la CRES, Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, et Jean-Pierre Bénard, président de l'IRESA, Inter-Réseau de l'économie sociale en Anjou. Il sera question également de la représentativité des employeurs de l'économie sociale dans les conseils de Prud'homme avec trois élus prud'homaux, Émile Ferbezard, Philippe Chevelier et Christian Derriès. Toujours au colloque des employeurs de l'économie sociale qui se tient donc au Mans en ce 5 novembre, nous allons aborder maintenant plus particulièrement la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. On parlera également peut-être des besoins, des attentes aussi des employeurs de cette économie sociale. Et nous sommes avec Jacques Stern, président de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Bonjour.
Bonjour.
Et Jean-Pierre Bénard, alors vous êtes membre de l'Inter-Réseau de l'économie sociale angevine, on présentera peut-être tout à l'heure...
En Anjou.
Et vous êtes aussi élu prud'homal. Alors juste avant le CRES, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, Monsieur Stern, est-ce que vous pouvez nous présenter cette structure et sur quel constat a-t-elle été mise en place ?
Alors, la Chambre régionale existe depuis plus de 20 ans maintenant. C'est une chambre qui a vocation à représenter et à agir pour l'ensemble des structures de l'économie sociale, dont la région des Pays de Loire. Et sur les territoires, nous avons des relais comme l'IRESA, que vous avez cité tout à l'heure, qui ont plus une action plus locale sur un département ou sur une métropole, sur une structure. On espère bien d'ailleurs que bientôt, grâce au travail de tous nos amis sartois, il se mettra en place une structure locale ou une organisation locale, un réseau local des acteurs de l'économie sociale en Sarthe ou sur le Mans Métropole. Enfin, ce sera à eux de définir un peu cet aspect-là. Alors la Chambre, elle a cette vocation, je dirais, de représenter, d'agir, de comprendre un peu ce qu'est l'économie sociale, de voir les évolutions. Alors nous avons un certain nombre de missions, tout un travail au niveau de la communication, de la connaissance de l'économie sociale, alors au travers d'un dispositif qui se met en œuvre actuellement, c'est le mois de l'économie sociale et solidaire, qui a lieu dans toute la région et même au-delà, puisque c'est un mois national, mais qui est organisé dans chaque région, puisque l'économie sociale, c'est une économie de proximité, c'est une économie du territoire, et on agit en fonction du territoire, différemment, effectivement, de ce qu'on peut faire en Rhône-Alpes ou en région parisienne. En Pays de Loire, on a notre propre outil de communication, mais on travaille en réseau avec d'autres acteurs. Alors, toute cette partie-là, on a tout un travail aussi sur la connaissance de l'économie sociale, qu'est-ce que ça représente en termes d'emploi, en termes de qualité d'emploi, en termes de salaire versé, en termes de type de relations entre au sein des entreprises, la place des femmes, la place des handicapés, toutes ces questions-là sur lesquelles on travaille avec ce qu'on appelle un observatoire, c'est-à-dire un lieu de regard sur notre activité, ce qu'est l'économie sociale dans la région. Et puis nous avons aussi toute une relation, alors qui va bien un peu dans le sens de ce que vous indiquez, sur la formation. Parce que, effectivement, connaître, ça passe par faire reconnaître dans les lycées, dans les universités, dans les grandes écoles, ce qu'est l'économie sociale, cette forme d'économie dans laquelle, je dirais, on place à la fois la production, qui reste quelque chose d'important, mais aussi les relations dans l'entreprise, les relations avec le territoire, comme des valeurs fortes de notre action. puis le dernier point sur lequel on essaye de travailler de plus en plus, c'est de soutenir l'innovation, le développement économique, parce que aujourd'hui on a besoin d'emplois, on a besoin d'emplois nouveaux, on a besoin d'emplois de qualité sur les territoires. On sait que la désindustrialisation est en marche un peu partout, donc l'économie sociale doit innover et proposer aussi les emplois de demain pour nos territoires. Ça fait partie de notre responsabilité de chambre, de venir accompagner les territoires pour trouver des solutions de création d'entreprises et d'emplois pour l'avenir.
Vous avez dit ça fait 20 ans que cette chambre existe, donc ça veut dire que l'économie sociale et solidaire, on en parlait il y a 20 ans, c'est seulement le 3 troisième mois de l'économie sociale et solidaire. Ça veut dire quoi? Que l'évolution a été dans le sens où le poids économique est de plus en plus reconnu?
Le poids économique est de plus en plus reconnu, et puis il faut bien avouer que dans les prémices, si vous voulez, de l'économie sociale, il y a un peu plus de 20 ans quand ça s'est créé, on était plutôt sur de la réflexion un peu intellectuelle, alors que depuis une petite dizaine d'années, on est essayé de concrètement donner de la lisibilité, communiquer, exprimer ce qu'il en est exactement. Alors on est passé un peu d'un travail un peu de chercheurs, d'experts, à essayer de voir comment cette économie sociale, qui en même temps est très ancrée dans la vie quotidienne de tout un chacun.
Parce que, les associations, c'est vrai qu'on peut, si on parle aux auditeurs, effectivement, une association, c'est c'est une structure de l'économie sociale et solidaire.
Par exemple, pour les enfants, vous avez beaucoup de crèches, de garderies, de structures, de centres aérés, toutes ces structures-là sont souvent des structures associatives. Tout ce qui est du domaine de l'aide à domicile, pour les enfants, pour les personnes âgées, tout ça, c'est souvent aussi les structures de l'économie sociale, les structures associatives. Dans le domaine culturel, vous avez énormément d'acteurs qui sont dans ce domaine-là. Alors, un domaine qui est bien connu au Mans, en plus, le domaine du sport. La plupart des clubs sportifs, à part quelques grands clubs professionnels qui sont en bourse, mais il y en a quand même très très peu, ce sont toutes des associations qui ont à la fois un rôle dans la vie quotidienne de nos concitoyens, et en même temps, ce sont des structures de l'économie sociale, ce sont des associations. Vous avez le domaine du sanitaire et social qui est extrêmement important. La prise en charge des handicapés, la prise en charge des personnes âgées dans les maisons de retraite, la prise en charge des enfants dans le monde hospitalier. Tout ça, ce sont des structures de l'économie sociale. Vous avez aussi tout le monde qui est très important de la mutualité, que vous connaissez bien au Mans, puisque c'est quand même un des berceaux de la mutualité, avec à la fois l'assurance complémentaire, donc être à côté de la sécurité sociale pour permettre à la population d'avoir des remboursements complets, créer des hôpitaux, des maisons de retraite, des crèches, des centres d'optique, tout un tas de services à la population qui permettent, au travers de la vision de l'économie sociale, souvent de baisser les prix, d'obtenir des services de qualité. Et puis nous avons, alors dans le domaine des assurances auto, par exemple, aux maisons, on a de très très grandes mutuelles, je ne vais pas toutes les citer, puis on est pour la plupart de la publicité non plus, mais on les connaît bien, elles sont très actrices dans notre vie quotidienne. Et puis vous avez un monde aussi qui est important, c'est celui du monde des coopératives. Alors vous avez les coopératives de production, les coopératives bancaires, les coopératives agricoles, qui gèrent des pans entiers de notre économie avec une forme de relation à la fois à leur territoire, à leur personnel, à leur volonté, qui soit effectivement au nom de valeurs et non pas uniquement au nom d'un produit capitalistique, parce que c'est ça qui fait la caractéristique de l'économie sociale, c'est des projets collectifs dans lesquels il y a cette notion de partage entre les salariés, le projet et l'action.
Pour rentrer dans le détail justement d'une coopérative qui produit des produits marchands, il y a quand même des résultats, il y a quand même des profits, des bénéfices. Quelle différence avec une entreprise capitalistique? Ces profits n'appartiennent plus à une seule ou quelques personnes, quelques actionnaires, mais appartiennent à personne, finalement à tout le monde.
Alors, dans une coopérative, il y a ce qu'on appelle les réserves impartageables. Et ça dit bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire que quand on est au sein d'une coopérative, il y a une partie, au moins le tiers du résultat, quelquefois donc ça va jusqu'à la moitié, qui est mis dans ces réserves impartageables. Et ces réserves impartageables, ils servent à augmenter les fonds propres de l'association, c'est-à-dire la capacité de résister à des moments de crise, et à la fois à permettre l'investissement. Et puis le reste est effectivement réparti entre les différents coopérateurs chaque année. Alors ça peut faire générer derrière des systèmes d'épargne, enfin il y a tout un tas de dispositifs possibles. Chaque coopérative a la capacité à faire ce qu'elle veut. Et au sein des coopératives, vous avez des salariés classiques et vous avez des salariés coopérateurs qui peuvent ne pas avoir tout à fait le même statut parce qu'ils n'ont pas non plus le même engagement personnel. Donc, et chaque coopérative s'organise en fonction de ses souhaits. Mais ce qui est important, si vous voulez, c'est que dans cette notion de réserve impartageable, ça veut dire qu'il n'y a pas d'acquisition du capital par un individu ou un groupe d'individus, mais ça appartient à l'organisation. Ce qui fait que vous avez beaucoup de coopératives, par exemple, qui vont dans des domaines, par exemple, je pense que vos auditeurs peuvent y être sensibles, mais on a une... Alors, je connais mal les exemples sartois, et comme je suis de la région nantaise, on a une coopérative, par exemple, sur la région nantaise, une coopérative de construction. C'est la première productrice de maisons en bois dans la région nantaise aujourd'hui, avec 150 salariés. Vous voyez, donc, c'est dans la façon dont on conçoit un projet, ce sont des structures qui, en même temps, développent des valeurs autour du développement durable, autour de l'environnement, et vont souvent au-delà de leur propre considération de produire quelque chose de brut, mais voient ce que dans le type de production, je dirais l'usager après, pour attirer comme bénéfice la planète, d'éviter un certain nombre de difficultés dans l'avenir. Vous voyez, les coopératives, souvent, et les associations aussi, intègrent cette responsabilité sociétale, cette responsabilité environnementale dans leur propre projet. C'est-à-dire que souvent, la question des valeurs est aussi importante que la question, je dirais, du résultat financier.
C'est l'homme est vraiment replacé au centre de la société, de l'entreprise. Et même, vous l'avez dit, ça va jusqu'à les maisons en bois, avec cette notion aussi de développement durable. Monsieur Bénard, vous, en tant qu'employeur dirigeant, vous êtes complètement d'accord avec Monsieur Stern sur...
Bien sûr, je suis complètement en phase et en accord avec lui sur la manière dont les uns et les autres on peut se situer par rapport à la dynamique de porter les valeurs et surtout de les inscrire dans la réalité du territoire.
Pendant la séance ce matin, il a été évoqué l'image de l'économie sociale et solidaire, et quelquefois on déplorait qu'elle était négative, cette image. Est-ce que vous le ressentez aussi, qu'il y a un réel effort à faire à...
Oui, il y a un réel effort à faire. C'est d'ailleurs à ça qu'a servi notre réseau de proximité. C'est-à-dire que quand on a réfléchi à la création de l'IRESA, l'interréseau de l'économie sociale en Anjou, on a été, je dirais, tout à fait sensible au fait que, d'abord, il fallait qu'on essaye de se rencontrer au sein des familles que constitue l'économie sociale, puisque les familles sont importantes dans l'économie sociale. La famille des coopératives, la famille des mutuelles, la famille des associations. C'était des modes qui ne se connaissaient pas, qui ne se fréquentaient pas. Et donc, l'interréseau a d'abord eu pour vocation à ce qu'on se connaisse entre nous. Et qu'à travers la connaissance qu'on arrivait à construire, on puisse agir sur le territoire pour montrer la force que représentait l'économie sociale pour les collectivités locales, dans l'intérêt des structures pour lesquelles on militait.
Vous parliez d'économie de proximité aussi.
Oui, on est sur le territoire du Maine-et-Loire. Alors, j'ai parlé de l'Anjou parce que nous sommes une structure qui est partie sur Angers au départ et qui a été sollicitée par certaines collectivités pour que nous allions sur le département. Donc nous sommes en train de regarder comment, avec le territoire de Cholet, avec le territoire de Chaumur, avec le territoire de Bourget, avec les principaux territoires que nous avons sur le département, comment on peut construire une approche qui vise à réunir sur leur territoire de proximité les gens qui appartiennent à l'économie sociale pour agir avec eux sur des actions qui peuvent valoriser l'économie sociale. Les différentes familles.
Et qu'attendez-vous de la CRES, justement, Monsieur Bénard ?
Nous sommes membres de la CRES. Donc les réseaux comme l'IRESA et comme les Écosolis à Nantes ou comme l'APES 53 en Mayenne, puisqu'il y a trois réseaux pour l'instant qui existent, nous sommes membres de la CRES. Donc nous sommes parfaitement en ligne avec les réflexions qu'on mène au sein de la CRES. Et aujourd'hui, nous ne souhaitons qu'une chose, c'est que la CRES puisse agir encore davantage avec nous, peut-être en créant une agence de développement qui pourrait permettre aux uns et aux autres sur les territoires d'être des acteurs qui relaient les actions de la CRES en liaison avec les collectivités locales que sont les conseils généraux, la région, le conseil régional, voire l'État.
Justement, les relations avec les collectivités locales, les collectivités territoriales, on en parlait aussi tout à l'heure là, lors de la séance, avec la réforme territoriale aussi, c'est des inquiétudes que vous avez et les relations visiblement ne sont pas les mêmes dans les régions
Non, ben, effectivement, nous sommes très sensibles à la manière dont les choses vont se passer dans les mois qui viennent avec les réformes qui vont intervenir vis-à-vis des collectivités locales et notamment sur l'idée que porte aujourd'hui les pouvoirs publics sur une refonte des rôles respectifs des conseils généraux et des conseils régionaux. Nous sommes très vigilants parce que nous savons que nous avons une proximité aujourd'hui qui se joue sur les territoires avec les collectivités locales et qui est majeure dans le dispositif que nous avons aujourd'hui d'un certain nombre de structures qui sont parties prenantes avec les conseils généraux notamment, toutes les structures qui travaillent dans le domaine de l'aide aux personnes, par exemple, qui sont parfaitement en lien étroit avec la collectivité locale qui est le collectif public, qui est le conseil général. Comment ça va se passer, comment ça va se jouer au niveau des territoires. Donc c'est une situation qui nous mérite aujourd'hui que nous soyons très mobilisés. Mais sur le Maine-et-Loire, nous avons l'avantage d'avoir réussi déjà depuis un certain nombre d'années à fédérer les gens qui travaillent dans une même famille. On a créé Anjou Domicile il y a plusieurs années, qui regroupe aujourd'hui toutes les structures qui font du service à la personne et qui ont accepté de mettre en commun leurs réflexions pour agir ensemble. Sur l'insertion, nous avons créé aujourd'hui un groupe informel où toutes les structures de l'insertion, qui soient de la FNARS, du CORAS ou de Chantier École, l'URAI, qui existe partout sur les 5 départements. Mais dans le Maine-et-Loire, on les a fédérés ensemble pour qu'ils aient une réflexion ensemble et qu'ils se positionnent ensemble vis-à-vis des interlocuteurs que sont les collectivités locales.
Les mots reviennent, hein, fédérer, construire, monsieur. Travailler ensemble. Monsieur Stern.
Oui, ce que je voulais dire, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, les collectivités, les organismes qui s'occupent de développement économique, les agences, les structures, faire des investissements importants dans le domaine de la recherche, dans le domaine de l'industrie, dans le domaine même d'un certain nombre de services informatiques ou choses comme ça, c'est monnaie courante. Aujourd'hui, on a besoin, au niveau de l'économie sociale, et je crois que les collectivités locales commencent à le comprendre, mais c'est pas encore abouti à ce qu'on vienne nous donner les moyens de favoriser l'innovation en économie sociale, de favoriser un véritable développement dans l'économie sociale. Je veux dire. On a tendance à nous dire aujourd'hui, il ne faut pas le nier, bah écoutez, débrouillez-vous, financez-vous. Bon, quand on voit les investissements qui sont faits, par exemple, dans le domaine des télécommunications, des fibres optiques, de tous ces champs-là qui sont financés par les collectivités, quand on voit les investissements en termes de laboratoires de recherche, en termes de qui vont en direction de l'industrie, voire la façon dont, de la part d'un certain nombre de collectivités, tout un tas de grandes entreprises sont financées dans leur dynamique de recherche, y compris par l'État, sous forme de modification fiscale, nous ne bénéficions souvent pas de ces éléments-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a vraiment une importance à venir soutenir l'innovation, le développement de nouvelles structures dans l'économie sociale, parce qu'on voit qu'il y a des projets. Alors, Jean-Pierre, qui est trop modeste, ne nous a pas parlé d'un projet sur lequel il milite beaucoup en Anjou, qui est celui d'une filière sur la problématique des couches et de l'usage des couches et du renouvellement des couches pour les enfants. Alors là, c'est un marché énorme, parce qu'effectivement, pour être maintenant plus grand-père que père, mais je vois les quantités de ce qui défile, avoir des produits de développement durable dans ce domaine-là, des systèmes de nettoyage, des systèmes de distribution. On voit que l'ensemble de la collectivité dans un territoire est impliqué par ces questions-là. Et bien, il faut qu'on soit appuyé pour développer de véritables filières économiques qui sont en capacité de gérer cela, parce que d'un autre côté, nous avons des crèches associatives, nous avons qui gèrent, nous avons des familles dans les quartiers. Monsieur Boulard parlait ce matin de politique de quartier. Ben, comment on travaille concrètement dans les quartiers? Ça veut dire qu'il faut que les collectivités acceptent de venir se poser la question de nous aider plus à financer cette innovation, ce développement. Et aujourd'hui, les choses ne sont pas encore complètement acquises. Nous avons encore à bagarrer sur ce terrain-là.
Merci, Monsieur Stern, donc président de la Chambre régionale de l'économie solidaire et sociale, et Monsieur Jean-Pierre Bénard. Donc, et vous êtes aussi élu Prud'homale, oui. Et donc membre donc de l'interréseau de l'économie sociale en Anjou. Et on suivra donc cette information, donc de cette idée que vous avez eue. Et en tout cas, c'est la preuve aussi que ça montre effectivement une certaine idée d'innovation et de dynamisme aussi entre tous ces acteurs.
Tout à fait. Merci.
Tout à fait, merci.
Mon chéri.
Oui.
Il faut qu'on réfléchisse à ce qu'on va faire pour Léo quand je vais retravailler.
T'inquiète pas, on a l'embarras du choix. Entre les crèches associatives, les aides à domicile, les ludothèques, les clubs de sport, etc. Ton fils de 3 ans sera bien entouré.
Mais t'es super bien renseigné, toi.
Ben oui, c'est le mois de l'économie sociale et solidaire. C'est le moment de s'informer. Le mois de l'économie sociale et solidaire, c'est en novembre. N'attendez pas pour vous renseigner.
Plus d'infos au www.lemois-ess.org.
Social et solidaire, l'économie qui sait où elle va.
Alors, on va évoquer maintenant les employeurs de l'économie sociale et les conseils de Prud'Homme. Je reçois Émile Frebzard. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable du comité de pilotage dans les Pays de la Loire. Et il y a également deux élus prud'homaux, l'un de Mayenne. Il s'agit de Philippe Chevelier. Bonjour.
Bonjour.
Et de Christian Derriès. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vous du Maine-et-Loire. Voilà. Les employeurs de l'économie sociale et solidaire sont-ils bien représentés dans les conseils de Prud'Homme?
Alors oui et non. Ça dépend des structurations et des villes. Par exemple, Nantes, c'est 50%. Angers, c'est plus de 50%. C'est on a la présidence. Laval, c'est 50%. Saumur, c'est 50%. Alors il y a Saint-Nazaire où il y a qu'un élu, donc c'est du 25% et un peu moins. Et on a le cas aussi des Sables-d'Olonne. Autrement, tout le reste, c'est à peu près entre 45 et 50%. Hein.
Alors la question que j'aurais dû poser tout d'abord, pour nos auditeurs qui nous écoutent, on va peut-être rappeler ce que sont que les conseils de Prud'Homme. Ce sont des juridictions du travail, on peut dire ça.
Oui, entièrement. Et quand même, c'est assez unique, c'est la représentation des élus prud'homaux est à 50% par employeur et 50% par salarié. À chaque fois qu'il y a un conseil de prud'homme, il y a une fois un salarié, une fois un employeur. Et donc, c'est toujours à tour de rôle. Nous, pour la partie employeur, on est confrontés, nous, avec les listes du MEDEF. C'est les seuls qui sont représentés actuellement. Et nous, on est un petit peu les canards qui viennent secouer le cocotier, comme on dit, où on est dans l'activité diverse. Et là, l'activité diverse, où on dit, on a notre place et notre rôle à jouer. C'est quand même tout le secteur de l'économie sociale. Et notre place, elle est importante à ce niveau-là. Mais aussi dans d'autres secteurs, l'encadrement, par exemple. Mais aussi, peut-être dans le commerce, par exemple. Les coopératives sont présentes dans le commerce. Mais là, on n'a encore pas d'élus là-dessus.
On peut peut-être préciser que dans les conseils de Prud'Homme, en effet, il y a des collèges avec industrie, service.
Voilà. Donc on a industrie, on a commerce, on a agriculture, activités diverses et encadrement. Et donc tous les autres secteurs où on n'est pas présent, à part l'activité diverse, on est présent un petit peu dans l'encadrement où il y a des villes qui ont fait des efforts de présenter des listes, mais bon, c'est pas généralisé encore. Hein, donc, mais on pourrait être très bien présent, par exemple, je dis dans le commerce, c'est une coopérative, elle est inscrite dans le commerce. Je sais pas, les foyers de jeunes travailleurs, par exemple, sont inscrits dans le commerce. Alors, s'ils ont pas fait la démarche, dans l'agriculture, par exemple. Je dis toujours que dans l'agriculture, si on présentait des candidats, on pourrait presque avoir la majorité dans l'agriculture. C'est, il y a beaucoup d'associations qui travaillent dans le domaine de l'agriculture. Bon, je parle des jardins de cocagne, mais il y a plein d'expériences en la matière où il y a des emplois qui sont les emplois verts, où il y a beaucoup d'associations qui gèrent ce genre de structure. Et donc, bon, l'industrie un peu moins, mais voilà un petit peu le référentiel au niveau des prud'hommes.
Et ce qu'on peut dire, c'est que vous avez fait de très bons résultats, en tout cas au niveau national. Puisque lors des dernières élections prud'homales qui ont eu lieu, c'était en décembre 2008, je crois, le secteur de l'économie sociale et solidaire a fait 20% des
voix. Presque 500 élus.
Presque 500 élus sur la France.
Sur la France. Hein, on a doublé entre 2008 et 2002 et 2008, on a doublé.
Alors on va parler maintenant du travail des prud'hommes représentant justement cette économie. Christian Derriès du Maine-et-Loire, quel est votre travail en tant qu'élu prud'homal?
Eh bien, mon travail, c'est effectivement, par exemple, en tant que site bureau de référé, de saisir rapidement les problématiques complexes pour un travailleur qui aurait besoin, en cas de conflit de travail, de résoudre ces problèmes un petit peu urgents, hein, tels que les problématiques de salaire ou autres. C'est également de faire des bureaux de conciliation où là on essaye de joindre les deux parties afin d'éviter le jugement. Et enfin, donc, s'il ne peut pas y avoir de conciliation, de...
Le référé, c'est ça, non ?
Ouais, non, non, ouais. Le référé, ça vient en urgence. C'est une sorte d'urgence.
D'accord.
De préparation.
Donc là, il y a un jugement voilà, pour les problèmes qui ne peuvent pas se régler de manière conciliante.
C'est préparatoire au jugement, c'est-à-dire que ça permet aux salariés de pouvoir continuer, si on peut dire, à vivre avec des indemnités qui sont accordées en cas de... pratiquement de passage au bureau de jugement qui risque de lui donner raison sur ces thèmes-là.
Quels sont les domaines, les affaires, le type d'affaires qui sont jugées ou qui sont traitées par les conseils de prud'hommes en ce qui concerne les employeurs de l'économie sociale et solidaire ?
Oui, mais on a beaucoup, moi je trouve pour l'instant, d'aide à domicile ou des employés comme ça, mais aussi on a dans des activités diverses, je me suis retrouvé avec des employés du commerce, parce que ça faisait partie d'un secteur qui pouvait être traité en activités diverses. En réalité, on récupère tous les salariés qui ne comprennent pas les autres sections. Et donc, du coup, ça peut être très varié suivant les cas qui sont traités et suivant le sujet qui est à traiter en réalité. C'est ça qui est intéressant. Il faut préciser aussi que les juges prud'hommes sont c'est facile à saisir parce que c'est une juridiction orale et que les gens n'ont pas forcément besoin d'écrire pour arriver à faire entendre leurs droits. Et ça, c'est très important parce que tout le monde aujourd'hui n'est peut-être pas, dans ce cadre-là, un spécialiste du droit du travail. Et en réalité, ça sert aussi à ça, les prud'hommes, une juridiction orale qui, dans le cadre du bureau de jugement, peut aller jusqu'à uniquement des paroles, c'est-à-dire de l'oral, pour faire entendre son droit. Et ça, je trouve que c'est important parce qu'aujourd'hui, tout est technique, tout est hyper organisé. Or, les prud'hommes, c'est souple. Et ça permet à tout un chacun de pouvoir faire exprimer et de faire valoir son droit.
Philippe Chevelier, vous qui êtes élu prud'homal en Mayenne, est-ce que quand on est employeur de l'économie sociale et solidaire, on est confronté à moins de soucis au niveau de jugement d'affaires lors des prud'hommes ?
Quelles que soient la section dans laquelle on peut se trouver, et donc l'activité diverse particulièrement, les employeurs ont les mêmes soucis que dans l'industrie ou dans le commerce, étant donné que ce sont des problèmes liés soit aux conditions de travail, soit aux problèmes de harcèlement, soit des problèmes liés aux contrats de travail, également sur les licenciements. Et donc, de plus en plus, on retrouve même dans l'économie sociale ces mêmes problématiques. Mmh. Donc on rencontre toute la palette de problèmes, d'appréciation de la convention collective ou autre.
Pour compléter un petit peu ce que je voulais dire tout à l'heure, je disais que l'aide à domicile, c'est vraiment problématique parce qu'il y a des gens qui emploient des personnes à domicile avec le chèque emploi universel et qui ne s'imaginent pas être employeurs. C'est-à-dire que lorsqu'ils se séparent de la personne qui est à son domicile, une ou plusieurs pour les personnes âgées, ils n'imaginent pas qu'il faille entreprendre une procédure de licenciement, payer les congés payés et autres, pas les congés payés, parce que le CESU le prévoit déjà, mais en tout cas prévoir des indemnités de licenciement au prorata du temps de travail effectué à la maison et également au prorata du nombre des années. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des procédures un peu inutiles pour des sommes qui sont parfois quelque peu dérisoires, sauf pour la personne qui ne gagne pas beaucoup, peu en fin de compte comme salaire. Mais voyez, c'est une vraie problématique que celle-ci. Les gens emploient des personnes sans savoir qu'ils sont vraiment des patrons, entre guillemets.
Oui, Émile Frebzar, vous vouliez rajouter quelque chose ?
La même chose pour les associations. On a le problème du chèque emploi association, où là, l'URSSAF a mis en place ce système-là. C'est un truc très pratique, c'est le seul souci de l'URSSAF, c'est d'encaisser les cotisations qui soient de l'URSSAF, les ACEDIC et les caisses de retraite. Sauf qu'ils sont jugés partis, et qu'à un moment donné, on n'y donne aucune information sur le contrat de travail, sur les autres charges à payer, telles que la formation professionnelle, la médecine du travail, etc. Et donc ça, c'est un grave problème. C'est que les associations, ils disent, ah ben, on est au chèque emploi association, on n'a aucun problème. Non, malheureusement, c'est simplement un tremplin pour une amélioration des rentrées de cotisation, mais toute la partie, ce qu'on pourrait appeler palpable, les papiers, le contrat de travail et tout ça, n'est pas fait. Et malheureusement, les gens, quand ils viennent en prud'homme, ben, réclament le contrat de travail, réclament le DIF, réclament un certain nombre de choses, et malheureusement, qu'est-ce qu'on fait ? On pénalise l'association qui n'a pas fait ses déclarations.
Alors, une question un peu générale, pourquoi l'économie sociale et solidaire doit être présente au prud'homme et représenter et défendre ses intérêts?
En premier, je dis qu'on est quand même les représentants premiers qui connaissons le secteur. Hein, c'est sûrement que, par exemple...
C'est un secteur en développement, donc il faut être représenté.
Et en plus, c'est un secteur qu'on connaît par ses finalités, par ses habitudes, par un certain nombre de choses. Et là, c'est notre rôle premier. D'autant plus que dans le secteur de l'économie sociale, il n'y a pas de partage de bénéfices. Du moins, ce qu'on pourrait appeler, je dis bénéfice, c'est pas le bon terme, c'est excédent. Il n'y a pas de partage d'excédent. L'excédent est réinvesti à des objectifs, et est réinvesti à des projets, à un certain nombre de choses. C'est ça la différence qui est importante. Et donc, là-dessus, notre rôle est quand même d'être présent à ce niveau-là.
Pour ma part, effectivement, c'est un petit peu le slogan que développe l'éducation sociale et solidaire, c'est-à-dire juger en droit, s'appliquer à ce que les règles qui sont pour lesquelles on a été mis en place s'appliquent. Et donc, le code du travail, on applique la réglementation dans le bon sens du terme, c'est-à-dire faire juger de la loi et surtout de l'esprit de la loi. Et ça, c'est très important parce que vous savez, entre les « on peut » ou « on doit », il y a des fois des subtilités qui permettent d'agir d'une manière ou d'une autre.
Philippe Chevalier, c'est important ça d'informer justement les employeurs sur leurs droits, leurs devoirs.
Je pense que c'est essentiel parce que on rencontre trois quarts du temps des problèmes de procédure. Les présidents d'associations ne connaissent absolument pas les procédures. Ils sont pourtant les employeurs. Et donc, c'est à nous de les former. Et on essaye de leur donner les moyens de le faire en venant nous consulter, en mettant en place des formations au sein des fédérations ou des coordinations. Pour qu'ils aient cette connaissance-là et éviter d'aller au Conseil des prud'hommes pour des problèmes de procédure. Parce qu'à chaque fois, ils se font condamner, parce que si la procédure n'est pas respectée, ils sont automatiquement condamnés. Donc il y a nécessité de donner ces informations-là et de les inciter à venir se former dans les formations qui sont offertes aussi bien par la CPCA que les différentes coordinations, où il y a des formations sur les employeurs de l'économie sociale ou les employeurs tout court.
Émile Frebzard, vous, au sein du COPIL Pays de la Loire, donc comité de pilotage en ce qui concerne les conseils de prud'hommes, vous mettez en place des formations et de l'information pour ces employeurs.
Alors, la formation, oui, c'est par l'association l'AES et la FED. Donc là-dessus, il y a des formations. Tous les élus prud'hommaux sont appelés à se former. Alors, c'est à raison de tous les deux mois. On a une formation journalière. Et donc là, les formations, et on commence à former les débuts de liste, alors qui vont un jour, s'il y en a un qui démissionne, reprendre le poste. Et donc, on commence à les former de façon qu'il n'y ait pas de difficultés après pour assurer le poste. Il faut quand même savoir qu'un élu qui rédige qui est président de séance une fois par mois, ça lui fait au moins entre 15 et 25 heures de présence. Hein. Alors, soit par la rédaction, soit par le délibéré, il y a des compléments d'enquête, il y a un certain nombre de choses, c'est quand même assez important. Hein. Je voulais revenir sur le point de tout à l'heure. Moi, je suis président d'une fédération de danse. Et là aussi, moi, je suis amené à conseiller des associations. Alors, moi, je suis dans la petite association. Moins de 10 salariés, même moins de 5. Et là, aussi, quand j'amène des conseils, c'est revenir sur les fondamentaux, au moins le contrat de travail, les horaires, l'application de la convention collective. Et tout ça, c'est pas acquis dans les associations. C'est, y a des habitudes qui ont été prises. On a fait ça comme ça avant. Mais malheureusement, maintenant, le droit prime. Et donc, il faut le respecter. Alors, faut essayer d'amener les gens à leur responsabilité. C'est sûr qu'on va leur dire aux gens, vous appliquez la convention collective, c'est la valeur du point. Alors qu'ils ont toujours payé en heure. Alors, la valeur du point, faut la rectifier. Et il y a des problèmes aussi. Moi, c'est dans un secteur de danse où je dois appliquer les conventions collectives, au moins pour les professeurs diplômés, où ils ont un statut. Et puis après, le reste, c'est des animateurs qui n'ont pas de diplôme. Et donc, tout ça, il faut faire la liaison, expliquer aux gens qu'un animateur, il n'a pas pas le droit de former des gens en jazz, en classique, en contemporain, alors que sur d'autres, ils veulent pouvoir. Mais là, on voit bien qu'il y a tout... Actuellement, nous, on travaille sur des livrets de façon à informer les responsables associatifs sur ce domaine-là. C'est vrai que... Et puis aussi d'adhérer à un syndicat. La première des choses, il faut que maintenant les associations adhèrent pour qu'ils aient au moins la formation et puis au moins les services juridiques. Moi, je suis dans le syndicat de l'animation. On a au niveau du siège 5-6 juristes. Et donc, là aussi, on ne peut plus donner des conseils comme ça par plaisir de les donner. Il y a une telle évolution des choses. Bon, la valeur du point est telle là. Au mois de janvier, elle risque de changer. Donc, tout ça, il faut ramener les éléments de façon que chaque responsable ne soit pas pris au dépourvu et soit attaqué au prud'homme. Et il faut qu'il ait le maximum de chance avec lui.
Et je reviens sur un exemple. Un président d'association sportive qui emploie 6 heures ou 10 heures par semaine un professeur de sport ou un initiateur d'un sport quelconque, il peut, s'il se trompe dans le remplissage des fiches de paye, il peut être,
attaqué, oui.
être saisi par... par l'employé au prud'homme.
Ah oui, oui, oui. Il y a des règles, hein, la convention collective, notamment dans le sport, Philippe pourra en parler, mais dans la convention du sport, là maintenant, elle a été signée il y a 2 ans, je crois, ou 3 ans.
Oui, 4 ans.
Oui, ça passe tellement vite. Et c'est pas vieux. Hein. Là aussi, on a des vieilles habitudes. Hein. Moi, j'ai fait des réunions d'information où on payait les gens en black, donc en frais de déplacement. Passer de la logique de frais de déplacement à salaire, c'est tout un monde. Hein. C'est là aussi, il faut gagner du temps. Or, il y a des institutions qui ont été mises profession sport, hein, qui emploient des salariés, mais il est facteur au niveau de l'association, donc l'association n'est pas employeur, mais c'est l'association profession sport. D'autres font les bulletins de salaire et tout. Mais c'est vrai qu'on a des logiques qu'il faut faire changer, améliorer, etc. Et que c'est pas gagné. Hein. C'est pas gagné. Hein.
Philippe Chevalier, vous rendez compte sur le terrain que un simple président d'association peut avoir des soucis
Oui, il peut. Et puis des soucis parfois qu'il ne maîtrise pas. Parce que vous donniez l'exemple tout à l'heure d'un animateur sportif dans une association qui fait 6 heures. Si l'animateur fait ça dans plusieurs associations et s'il cumule des heures, dépasse l'heure légale, la question se pose. Et donc automatiquement, l'employeur peut être condamné, alors que franchement, il ne sait pas tout ce qui va se passer. Donc ça peut amener, bon, c'est un peu excessif dans le cas présent, mais ce n'est pas quelque chose de complètement idiot. Et donc il y a nécessité d'être extrêmement vigilant pour ça. Et donc les structures donc, au niveau sportif, au niveau des comités départementaux olympiques et sportifs, il y a des moyens de bien se renseigner pour éviter d'aller dans ces problématiques-là.
Merci à tous les trois. Je merci Émile Frebzard, responsable du comité de pilotage concernant les conseils prud'hommes et les employeurs de l'économie sociale et solidaire dans les Pays de la Loire. Et deux élus, l'un de Mayenne, c'est Philippe Chevalier, et l'autre du Maine-et-Loire, Christian Derriès. Merci à vous.
Merci.
La semaine prochaine, nous terminerons ce mois de l'économie sociale et solidaire sur les ondes de Fréquence Sillé avec Jean-Louis Lemierre, président d'aide à domicile et membre de l'USGRS, sur la situation de l'économie sociale en Sarthe. Le mois de l'économie sociale et solidaire, une émission réalisée par Emmanuel Bouger, Nathalie Lotin et Frédéric Sarello. Retrouvez les archives de l'émission sur notre site internet www.fréquence-sille.org.